France Culture.
Le journal Stanislas Vazak. Bonsoir Stanislas.
Bonsoir Quentin, bonsoir à tous. Boualem Sansal va bien et il est en France. L'écrivain franco-algérien, gracié la semaine dernière en Algérie, a été reçu par Emmanuel Macron qui a salué son courage exemplaire. L'impunité policière est un phénomène statistique, affirme l'ONG Flagrant Déni, qui se base sur des chiffres officiels pour dénoncer le manque de poursuites judiciaires contre des policiers ou des gendarmes accusés de violence. Témoignage dans ce journal. L'inquiétude des maires de France réunis en congrès à Paris. L'incertitude politique et budgétaire pèse sur les élus à 4 mois des élections municipales. En Russie, lentement mais sûrement, Vladimir Poutine réhabilite Joseph Staline. Le président russe a lancé aujourd'hui la construction d'un nouveau brise-glace, le Stalingrad. Nous retrouverons à Moscou notre correspondant Sylvain Tronchet. Un an après son arrestation à l'aéroport d'Alger, Boualem Sansal est de retour en France. C'est loin des caméras que l'écrivain franco-algérien a atterri ce matin sur le sol français en provenance de Berlin. Il a été aussitôt reçu à l'Élysée avec son épouse, l'occasion pour Emmanuel Macron de saluer un grand écrivain dont la dignité, la force morale et le courage ont été exemplaires selon les termes du communiqué présidentiel. Boualem Sansal a été gracié la semaine dernière par le président algérien Tebboune après avoir été condamné à 5 ans de prison pour avoir remis en cause le tracé de la frontière entre l'Algérie et le Maroc. C'est le président allemand, Frank-Walter Steinmeier, qui avait obtenu sa libération et son transfert en Allemagne. Alors il faudra sans doute attendre quelques jours avant que Boualem Sansal ne s'exprime publiquement, car il y a encore un Français détenu en Algérie, le journaliste Christophe Glaise. Arnaud Benedetti est le président du comité de soutien à l'écrivain franco-algérien.
On est très heureux et soulagés surtout de le savoir maintenant en France. Il a retrouvé aujourd'hui Paris et c'est à Paris qu'il voulait s'installer. Et on est évidemment pleinement heureux de ce retour en France. Dans tous les cas, le retour en France, après être passé entre les mains des médecins allemands, montre quand même que sa forme physique, au regard de ce qu'il a subi, est pour l'instant satisfaisante. Pour l'instant, on va le laisser se reposer. C'est lui qui est maître de sa communication et de son agenda médiatique. Il est temps de savoir qu'il y a quand même des sujets encore en instance avec l'Algérie, notamment l'incarcération de votre confrère Christophe Glaise, dont le cas n'est pas réglé, dont on souhaite bien évidemment ardemment et rapidement la libération. Ce paramètre comptera vraisemblablement, on peut l'imaginer, dans sa décision de communiquer rapidement ou pas. De toute façon, Boualem est quelqu'un qui a l'habitude d'avoir une parole libre. Il avait une parole très forte avant, bien évidemment, d'être incarcéré pendant 1 an. Sa parole, après cette épreuve, sera encore plus forte et il ne manquera pas, on en est sûr, de s'exprimer dès qu'il jugera opportun et utile.
Arnaud Benedetti répondait à Faouzi Trita. Christophe Glaise a été condamné à 7 ans de prison pour avoir rencontré en Algérie le responsable du mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie. Son procès en appel est prévu le 3 décembre prochain. Nous vous en parlions ce matin dans le journal de 8h. L'ONG Flagrant Déni publie un rapport accablant sur la forte augmentation des affaires de violences imputées aux forces de l'ordre. Des violences trop souvent impunies. Selon elle, l'organisation se base sur des chiffres officiels du ministère de la Justice, ce qui lui fait dire que l'impunité policière est un phénomène statistique en France. Alors pour sanctionner ces comportements, il y a notamment l'IGPN, la police des polices, mais la Direction nationale de la police judiciaire reconnaît ce soir un problème de recrutement, puisqu'il y a aujourd'hui environ 20% de postes d'enquêteurs vacants à l'IGPN. Bonsoir Anne Fauquemberg.
Bonsoir.
Vous avez rencontré des plaignants touchés par des tirs policiers et qui se sont dit soulagés par la publication de ce rapport.
Oui, plaignants et ex-plaignants, plusieurs personnes en tout cas du collectif, les mutilés pour l'exemple, éborgnés ou blessés pendant la crise des gilets jaunes. Ils ont salué ce matin les chiffres obtenus de haute lutte par l'ONG Flagrant Déni, chiffres de la chancellerie qui permettent de dire que depuis 2016, les violences impliquant des personnes dépositaires de l'autorité publique ont augmenté de 60%, alors que le taux d'élucidation de ces affaires est en baisse. Mélanie Ngoyegam a été blessée au cervicale par un coup de matraque le 20 avril 2019. Elle est toujours en colère contre l'enquête de la police des polices qui a permis, selon elle, de relaxer le CRS identifié.
Le rapport de l'IGPN a servi au procès à relaxer le CRS qui m'a tabassée. Parce que dans cette enquête, j'étais une militante prête à passer derrière le grand CRS pour lancer des cocktails Molotov qui auraient été dans mon sac. Jamais j'aurais eu des cocktails Molotov dans mon sac à dos, surtout que le coup de matraque termine sur mon sac à dos et que s'il y avait eu des cocktails Molotov dans mon sac à dos, et ben, ils auraient éclaté à ce moment-là, quoi.
À ses côtés, Vanessa Langard, victime d'un tir de LBD le 15 décembre 2018 aux Champs-Élysées, affaire pas encore jugée. Mais si le dossier avance, n'est pas grâce à l'IGPN, raconte-t-elle, rappelant au préalable ses séquelles.
J'ai perdu l'utilisation de mon œil gauche, j'ai perdu le goût et l'odorat et j'ai une paralysie d'une partie du visage. Donc malgré tout ça, voilà, mon avocate dépose plainte. Je suis entendue à l'IGPN de Paris. Ça se passe plutôt bien, le gars a l'air plutôt investi, sauf que quand on voit son rapport, il ne trouve rien. 5 personnes avec un LBD, mais pas de tireur. Et avec le même dossier, la juge qui avait mon dossier, elle trouve 2 tireurs. Donc l'IGPN aurait dû trouver.
Notez par ailleurs que selon l'ONG, 10% seulement des enquêtes pénales visant des policiers sont confiées à l'IGPN. Les 90% restants sont traités localement par les services de police judiciaire classiques ou par des cellule de déontologie départementale au fonctionnement opaque.
Anne Fauquemberg, merci. À Marseille, un homme a été tué par balle aujourd'hui dans les quartiers nord de la ville. Le 3e homicide en plein jour dans la 2e ville de France depuis début octobre. La victime avait une 40aine d'années. Pour l'instant, le parquet ne se prononce pas sur un éventuel lien avec le trafic de drogue. Marseille qui a enterré aujourd'hui Mehdi Kessassi, le frère du militant écologiste Amine Kessassi, engagé contre le narcotrafic. Mehdi Kessassi, qui a été abattu la semaine dernière. Le ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez, évoque aujourd'hui un crime d'intimidation. C'est l'événement politique du jour. 12 000 élus réunis porte de Versailles à Paris pour le 107e congrès des maires de France. Avec en ligne de mire les élections municipales en mars prochain. Le thème cette année, la liberté, pour bien signifier que cette liberté d'agir n'est pas toujours au rendez-vous dans les mairies. Le Premier ministre Sébastien Lecornu prendra la parole jeudi, dernier jour du rassemblement. Discours très attendu car ce congrès des maires de France intervient dans un contexte bien particulier en raison notamment des incertitudes budgétaires. Un contexte, Rosalie Lafarge, pesant pour les élus.
Ils aiment leur mandat, les maires, ceux qui sont ici en tout cas, mais ils s'interrogent. Que pourront-ils encore faire demain ? Patrick Bette est le maire sans étiquette des 270 habitants de Tournecoupe dans le Gers.
C'est vrai que les choses sont compliquées, notamment en termes de projet, puisque on a des incertitudes sur leur financement, les capacités aussi de pouvoir prendre des décisions à certains moments. Depuis quelques années, les marges de manœuvre se sont réduites. On a moins de choix sur les impôts, sur l'évolution de la fiscalité. Et en milieu rural, ce qui est très particulier aussi, c'est une sorte de désintérêt global pour les communes en milieu rural.
Pour lutter contre la morosité ambiante, une dizaine de ministres va se relayer porte de Versailles jusqu'au premier d'entre eux, après-demain, avec la volonté de rassurer, presque de câliner les élus. Françoise Gatel, chargée de l'aménagement du territoire, a ouvert le bal.
Dans cette société tourmentée, où on ne respecte plus les maires comme on les respectait. Moi, je souhaite qu'on ait de la gratitude pour le maire. Le maire, c'est celui qui rend possible les choses pour chacun de nous.
Elle promet que le Premier ministre ne viendra pas les mains vides. Jeudi, simplification, décentralisation sont des mots qu'on devrait entendre dans le discours de Sébastien Lecornu.
On lui fera crédit de ses intentions, naturellement.
Mais pas d'illusion du côté du vice-président UDI de l'Association des maires de France, Philippe Laurent.
Comme il l'a dit lui-même, il dit « je suis le Premier ministre le plus faible de la Ve République ». Je pense que c'est très lucide de sa part de le reconnaître. Il n'a certainement pas le poids suffisant pour faire véritablement changer les choses. La décentralisation, ce n'est pas une affaire de gestion, c'est un projet de société, la décentralisation.
La méthode est toujours la même. On nous caresse l'échine d'une main, on nous fait les poches de l'autre, tranche encore un responsable de l'AMF, ulcéré par les efforts budgétaires demandés aux collectivités qui accaparent l'esprit d'élus pourtant désireux de se concentrer sur une campagne municipale bien difficile à lancer.
Rosalie Lafarge depuis la porte de Versailles à Paris. À Lyon, le tribunal correctionnel examine aujourd'hui une affaire qui pourrait bien alimenter la campagne des élections municipales. Le groupe Holnest, contrôlé par le favori des sondages, Jean-Michel Aulas et son fils Alexandre, a porté plainte en diffamation contre rue 89 Lyon. En octobre 2023, le média indépendant avait publié une enquête sur un investissement américain du groupe. Enquête sous le titre « La famille Aulas s'envole en jet privé ». Vers des paradis fiscaux. Holnest dénonce des informations calomnieuses alors que rue 89 Lyon fustige une procédure bâillon. Mathilde Imberti a assisté à l'audience.
Rue 89 parle de procédure bâillon car leur modèle économique est fragile. Des journalistes indépendants, trois à Lyon, organisés en coopérative. Quand ils préparent leur défense, c'est leur travail qu'ils ne font pas et ce n'est pas anodin, a avancé leur avocat à l'audience. Pierre Lemerle est le directeur de la publication de Rue 89 Lyon et l'un des deux prévenus.
Puis c'est aussi un message envoyé à nos autres confrères, hein, parce que quand on voit ce type de procédure, on se dit tout simplement, bon, on est quand même dans un truc où dès qu'on va gratter quelque part, dès qu'on va chatouiller, on peut se prendre un gros coup de bâton, quoi. Et oui, ça interroge. C'est-à-dire que, parce que M. Aulas est un grand chef d'entreprise, qu'il a les moyens, faut qu'on le laisse tranquille, faut pas qu'on enquête. Enfin, ça me paraît assez aberrant, quoi.
Jean-Michel Aulas et son fils qui n'avaient pas répondu aux questions de Rue 89 avant publication de l'article, ni depuis d'ailleurs. Les journalistes leur ayant demandé pourquoi un tel montage financier avait été mis en œuvre par plusieurs entités économiques pour financer un projet entrepreneurial en Floride. « Vous n'avez pas assez de preuves », ont rétorqué les deux avocats des Aulas. « Vos propos sont diffamatoires et nuisent à la considération que le public peut avoir pour Jean-Michel Aulas. » Il est vrai qu'entre-temps, l'homme d'affaires, ancien président de l'Olympique lyonnais, s'est lancé en politique, candidat de la droite et de la Macronie aux élections municipales. Et d'ailleurs, la décision du tribunal correctionnel sera rendue le 20 janvier, a annoncé sa présidente il y a quelques minutes, soit moins de deux mois avant le verdict des urnes.
Mathilde Imberti depuis le tribunal correctionnel de Lyon. Cette dernière information concernant l'affaire des eaux minérales du groupe Nestlé. Le tribunal de Nanterre vient de décider de ne pas suspendre les ventes des eaux Perrier sous l'appellation eau minérale naturelle. En Russie, la discrète réhabilitation de Staline se poursuit. Nouvelle illustration aujourd'hui. Vladimir Poutine a lancé officiellement la mise en chantier d'un nouveau brise-glace baptisé Stalingrad. La ville qui portait le nom de l'ancien dictateur soviétique jusqu'en 1961, lorsque son successeur Nikita Khrouchtchev l'a rebaptisé Volgograd. Depuis le début de l'invasion de l'Ukraine en 2022, l'actuel président russe multiplie les gestes visant à restaurer les symboles de l'ancienne URSS. Sylvain Tronchet nous appelle de Moscou.
Officiellement, le nouveau brise-glace s'appellera Stalingrad en mémoire de la bataille la plus meurtrière de la Seconde Guerre mondiale. Mais difficile de ne pas y voir un signe de plus de la réhabilitation à bas bruit qui s'opère en Russie quand Vladimir Poutine dit aujourd'hui Je suis sûr que le Stalingrad portera dignement ce fier nom. Un nom, Staline, qui revient de plus en plus dans l'actualité à mesure que des monuments à la mémoire du dictateur soviétique refont leur apparition dans l'espace public. Rien que cette année, une vingtaine de bustes ou de statues de Staline ont été inaugurées en Russie. Des initiatives privées parfois, mais sous le regard bienveillant des autorités locales. À Volgograd, l'ancienne Stalingrad, débaptisée en 1961, de plus en plus de voix réclament le retour de l'ancien nom de la ville, communiste, et vétérans de l'armée en tête. Le Kremlin semble encore hésiter, mais a déjà accepté le changement de nom de l'aéroport, désormais aéroport de Stalingrad. Dans les nouveaux manuels d'histoire, la répression de la Grande Terreur est bien évoquée, mais le nombre de morts largement minimisé, et Staline en ressort avec un bilan globalement positif.
Sylvain Tronchet, correspondant de France Culture en Russie. Deux Ukrainiens au service de Moscou sont soupçonnés de deux actes de sabotage d'une voie ferrée en Pologne. C'est ce que déclare ce soir le Premier ministre polonais Donald Tusk. Cette ligne ferroviaire qui mène vers le territoire ukrainien a été sabotée à l'explosif ce week-end. Il s'agit d'une voie cruciale pour l'acheminement d'armes occidentales à l'Ukraine. Vous l'avez peut-être constaté, difficile voire impossible aujourd'hui de se connecter à plusieurs sites comme le réseau social X, ex-Twitter, le robot conversationnel ChatGPT, ou bien Doctissimo, des sites perturbés par la panne de leur fournisseur américain de services en ligne Cloudflare. La société évoque un trafic inhabituel à la mi-journée sans en expliquer la raison technique. Il faut savoir que Cloudflare affirme gérer près de 20% du trafic Internet mondial. Cette panne intervient le jour où Berlin accueille un sommet franco-allemand consacré à la souveraineté numérique. Pour Emmanuel Macron, l'Europe ne veut pas être le vassal technologique des États-Unis et de la Chine. On retrouve à Berlin notre correspondant Sébastien Baer.
Oui, il y a d'abord ce constat, celui d'une Union européenne dépendante des géants technologiques américains. En France, en Allemagne et plus globalement en Europe, les besoins numériques sont couverts à plus de 80% par des entreprises américaines. On parle là du cloud, l'informatique dématérialisée de Microsoft, Amazon ou Google, ce qui pose un problème de souveraineté car les autorités des États-Unis peuvent exiger d'avoir accès aux données parfois sensibles stockées sur les serveurs. Il est temps que l'Europe prenne son destin numérique en main, affirme Emmanuel Macron en anglais à la tribune.
Let's be clear. Soyons clairs, l'Europe ne veut pas être le client des grands entrepreneurs ou des grandes solutions fournies par les États-Unis ou par la Chine. Il s'agit simplement de refuser d'être un vassal. Nous devons nous protéger pour ne pas être submergés par les concurrents non européens. Je crois sincèrement que jusqu'à présent, nous avons sous-estimé ce que nous pouvons accomplir ensemble en tant qu'Européens. Et nous avons beaucoup d'atouts à offrir.
Autrement dit, il faut une préférence européenne, dit Emmanuel Macron. C'est aussi ce que demande l'industrie de la tech basée dans l'UE. Des règles harmonisées, plus d'investissements, moins de bureaucratie. Les 8000 start-up européennes dédiées à l'intelligence artificielle n'attendent qu'une chose, un coup de pouce pour les aider à se développer.
Sébastien Baer à Berlin. Direction le Brésil à présent pour la COP30, la conférence de l'ONU sur le climat qui se tient à Belém. Avec ce constat, il aura fallu attendre la COP28 à Dubaï il y a 2 ans pour voir écrire noir sur blanc que lutter contre le changement climatique nécessitait l'abandon progressif des énergies fossiles. C'est pourtant bien ce qui nourrit la crise climatique. À la COP30, le président brésilien Lula a décidé de remettre le sujet sur la table et l'idée fait son chemin. On retrouve à Belém notre envoyée spéciale Véronique Roberotte.
Lancée par la présidence brésilienne, sans que ce soit dans l'agenda officiel de la COP30, l'idée d'une feuille de route sur une sortie organisée du charbon, du gaz et du pétrole semble faire chaque jour de nouveaux adeptes à Belém. Avec des dizaines d'autres pays, presque une soixantaine, l'Allemagne soutient sans réserve l'initiative brésilienne. Stéphane Hoffe est le porte-parole de la délégation allemande à la COP30.
Avec la feuille de route actuelle sur les énergies fossiles, nous pouvons pour la première fois donner une idée claire des premières étapes de leur sortie progressive. C'est une approche totalement inédite. Bien sûr, il y a le groupe des pays arabes qui n'est évidemment pas très ouvert à une telle feuille de route. La situation n'est donc pas si simple. Mais certains États arabes jouent un rôle très constructif au sein du groupe. Ils sont très clairs sur le fait qu'une transition énergétique est en cours. La question n'est donc pas de savoir si elle aura lieu, mais plutôt comment et quand.
La présidence brésilienne a émis l'idée d'un dialogue entre les pays producteurs et les pays consommateurs d'énergie fossile pour organiser la baisse coordonnée de la production et de la consommation. La Colombie propose, elle, d'organiser la première conférence internationale pour la sortie des énergies fossiles en avril prochain. Selon l'Agence internationale de l'énergie, la demande en énergie fossile devrait commencer à diminuer en 2030.
Véronique Roberotte depuis la COP30 au Brésil. Le Palais Brongniart, l'ancienne bourse de Paris, accueille ce soir le premier festival réservé aux artistes féminines francophones, le Spotify Equal Festival, avec entre autres à l'affiche Clara Luciani, la franco-congolaise Théodora, la belge Shai, ou bien la canadienne Charlotte Cardin. Et le succès est au rendez-vous puisque les 1400 places ont été vendues en quelques minutes avec une liste d'attente de 6000 personnes. Et pourtant, les artistes féminines, tous genres confondus, peinent encore à se faire une place dans l'industrie musicale, Faouzi Trita.
L'an passé, dans le top 100 des musiques les plus écoutées, 17 morceaux seulement étaient interprétés exclusivement par des femmes. Camille Émilie a longtemps travaillé dans l'industrie musicale avant de devenir journaliste. Pour elle, il y a un problème d'accompagnement.
Si les labels ne sont pas prêts à faire l'effort, entre guillemets, d'investir réellement sur des femmes au niveau de la DA, au niveau des clips, au niveau de l'image, au niveau du stylisme, au niveau du maquillage, de la coiffure, pour justement leur donner les armes pour se différencier dans ce métier qui est un métier d'image, qui est un métier qui est très compétitif, et que voilà, on laisse les hommes faire le strict minimum et que les nanas, par contre, on leur en demande toujours 4 fois plus avec 4 fois moins de budget. En fait, on n'arrivera jamais à rien.
Il y a aussi la force des habitudes. Dans le rap, premier genre musical en France, les auditeurs et auditrices ont encore du mal à accepter des voix féminines et les rappeuses sont beaucoup plus sujettes aux critiques et au cyberharcèlement. Du côté des plateformes d'écoute musicale où l'un des arguments reste la découverte, la mise en avant des artistes féminines est un atout. Spotify a lancé Equal, c'est un programme avec des playlists 100% féminines, des conseils, des posts sur les réseaux sociaux, des rencontres avec des professionnels. Julie Bérec dirige dirige le programme chez Spotify.
Clairement, il y a encore du chemin à parcourir, mais on voit quand même une progression par rapport aux années précédentes. Par exemple, il y a plus 15% d'écoute d'artistes féminines en France en 2024 par rapport à 2023. Encore plus à l'international, on est à plus 26%. Et si on compare à 2020, on est à plus 108% à l'international d'écoute d'artistes féminines, donc françaises, depuis 2020. Donc on voit quand même qu'il y a une progression.
L'industrie doit aussi apprendre à laisser du temps. Théodora, arrivée il y a 4 ans avec un style hybride rap, pop, musique du monde loin des standards, a connu des débuts très timides avant de devenir l'une des artistes féminines les plus écoutées en France.
Voilà, Théodora à l'affiche du Spotify Equal Festival ce soir au Palais Brongniart à Paris. Merci Faouzi Trita. Le temps demain tourne à l'hiver, de la neige des 300 mètres d'altitude dans le nord-est et de la pluie sur la plupart des régions. Le soleil résistera près de la Méditerranée. Demain matin, des gelées jusqu'à moins 4 degrés dans l'est, mais les températures seront aussi négatives dans le sud-ouest notamment. L'après-midi, il fera entre 2 et 9 degrés en général, jusqu'à 19 degrés en Corse. C'est la fin de ce journal, préparé ce soir avec Alison Vicrobeck, à la technique Eric Perruchot-Triboulet.